CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce qu'on est un éternel optimiste ou pessimiste? On va faire une introspection intérieure et je suis encore avec notre invité de la semaine, le pasteur David Potier. Bonjour David.
Bonjour.
Ça va toujours?
Très heureux d'être là.
Ben, on est ravis, nous aussi. Tu as survécu à l'émission d'hier.
Oui,
et tu es encore entouré de femmes.
Non, mais je suis en bonne compagnie.
C'est ça, tu es le mâle de ces émissions.
Je suis la minorité visible aujourd'hui.
Il est optimiste. En fait.
Il est très optimiste. Ouais. Moi, je suis impressionnée. Aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Tu seras notre coach du jour. Le triomphe des optimistes. Mm-hmm. Donc, tu peux nous dire un tout petit mot sur ce dont tu vas parler?
Oui, en fait, on va parler de deux clés pour être optimiste. Il y en a plusieurs, mais on va regarder deux clés importantes pour rester optimiste.
Merveilleux. Moi, je pense que j'en ai besoin des fois. Paraît-il que je suis un peu dans la plaine, donc je me situe un peu au milieu, mais je vais être encouragée dans cette émission.
Je l'espère.
Tu ne seras plus rabat-joie.
Oh, j'ai jamais dit ça. Ça balance. Et Annabelle est avec nous. Tu vois, c'est pour ça que c'est ta seule émission cette semaine. T'as compris, moi?
Oui, j'ai compris.
Allez, bon. Annabelle, je te laisse toute la place pendant 3 minutes pour la pensée du jour.
Optimiste, pessimiste, on connaît pour la plupart cette expression, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et ça peut sembler assez rigolo ou juste être un trait de personnalité. Oh, bah, il y en a, ils le voient un peu plus plein que d'autres et l'autre un peu plus vide. Mais en fait, j'aimerais quand même vous inviter à faire attention parce que le pessimisme peut nous pousser à l'incrédulité. Parce que être trop pessimiste, être constamment pessimiste, c'est nourrir des pensées de peur, des pensées de découragement, des pensées d'échec. Et c'est quelque part nous laisser nous éloigner de la promesse de Dieu. Et on en a un exemple avec cette histoire des espions qui ont été envoyés par Moïse pour examiner, pour voir un pays, le pays de la promesse. Moïse leur dit, allez voir, allez examiner le pays et faites-moi un rapport. Et quand ces hommes reviennent, regardez ce qu'ils disent dans Nombre 13 au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ça commence bien. Ils ont fait ce qu'on leur a dit. Très bien. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est une excellente nouvelle. C'est exactement ce qu'on avait prévu. C'est le pays de la promesse. On pense qu'il y a le lait et le miel. Et là, et en voici les fruits. Et je vous rappelle qu'ils avaient rapporté une grappe de raisin qu'ils ont dû porter à deux. Moi, personnellement, quand je vais faire mes courses, c'est rare qu'on soit deux à porter la grappe de raisin. Et là, ça se gâte. Ils disent, mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Et là, en fait, on voit qu'ils étaient dans un mode de constat. Et puis, ils disent, voilà, c'est une réalité. Et le pessimisme, d'un seul coup, apparaît. D'un seul coup, ces espions ont un langage pessimiste. Un langage qui va éveiller la peur, qui va éveiller l'effroi tout autour d'eux. Leur pessimisme a vraiment poussé les gens à la crédulité. Ils auraient été prêts tous à retourner en Égypte suite à ce discours pessimiste. Tout un peuple disait, mais pourquoi est-ce qu'on est parti d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on nous a demandé d'aller dans ce pays où coule le lait et le miel et aussi où il y a des géants, ces gens qui mangent leurs propres habitants? D'un seul coup, ils ont eu peur. Alors vraiment, je vous encourage à choisir l'optimisme, non pas juste comme un trait de personnalité qui est sympathique, mais parce que lorsqu'on choisit d'être optimiste, on choisit d'être des personnes de foi. On choisit la promesse plutôt que certaines une réalité naturelle. On choisit la promesse de Dieu plutôt que nos perceptions humaines. On choisit de croire que ce que Dieu a dit est possible. Et on choisit tout simplement d'avoir une pensée qui est surnaturelle et qui va dépasser tout ce qu'on peut voir de nos propres yeux, contrairement malheureusement à ces espions.
Merci Annabelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pessimistes ont un pouvoir d'influence quand même très très grand. On le voit dans cette histoire et on ne va pas s'étaler trop sur l'histoire des espions parce qu'on va en parler tout à l'heure dans la rubrique conseil du coach. Vous avez forcément le même esprit tous les deux parce que vous avez eu la même direction.
Parce qu'on est des gens très optimistes.
C'est ça. mais les pessimistes peuvent influencer comme ça l'atmosphère autour d'eux et donc les gens qui se trouvent dans la même présence. Et en fait, ça peut saper le moral, mais plus loin même la vision de beaucoup de personnes. Mm-hmm. Et en fait, c'est assez un fléau finalement, le pessimisme.
Absolument. Les commentateurs bibliques les plus conservateurs disent qu'il y avait environ 200 000 personnes dans le désert, le peuple d'Israël, 200 000. Ça, c'est les plus conservateurs. Mm-hmm. Certains disent jusqu'à 2 millions.
Ah oui.
OK, mettons 1 million. Mm-hmm. 10 personnes. Le pessimisme de 10 personnes a amené une nation entière, 1 à 2 millions de personnes, à dire « on ne veut pas aller dans ce territoire extraordinaire que
c'est
Dieu nous donne
».
Mais il y a un détail qui est important dans le texte. Le texte dit que les espions qui avaient été choisis, c'était des princes d'Israël. C'était des leaders. C'était des gens d'influence. Et ça nous amène à réaliser, nous, là, on a un leadership. Tout le monde a un leadership. Tout le monde, leader sur tes enfants, sur ta maison, à ton travail, tout le monde a un leadership. Et comment notre pessimisme peut aller bien plus loin que juste d'impacter nos vies, mais impacter négativement la vie de beaucoup de personnes. Et c'est comme un effet d'entraînement.
Ouais.
Une personne pessimiste en contamine une autre, et une personne pessimiste contamine encore plus l'autre personne d'avant. C'est une roue qui tourne. Alors, il faut vraiment faire attention à ça et combattre tout ça par la foi.
Mm-hmm.
Par la foi.
Vraiment, vraiment. C'est ça qui est polluant, en fait,
oui.
Si justement on a ce regard négatif systématiquement. Mm-hmm.
Et tu disais qu'il y avait une force de persuasion qui était très forte. Et c'est parce qu'en fait, une personne qui est pessimiste ne ment pas. C'est vrai ce qu'il disait, en fait.
Oui.
Sérieusement, c'est des faits.
Elle le croyait.
Faits, mais,
elle le croyait.
Mais c'est des faits. Et en fait, on peut facilement passer pour quelqu'un de sage et de prévoyant.
Oui.
Et puis faire passer des gens qui sont dans la foi pour des fous, des gens qui n'ont pas réfléchi, des gens qui ne voient pas le danger. Et du coup, le langage pessimiste, sans discernement, et peut être interprété et reçu comme un langage de sagesse, un langage de prudence. Et du coup, on se dit, ils ont peut-être raison, et c'est pour ça qu'on peut facilement recevoir ce langage, on peut facilement recevoir ces informations. Et une fois qu'on a reçu l'information, c'est là où elle commence à faire son effet, et puis on se retrouve sans force, on se retrouve découragé, on a oublié la grappe géante, on a oublié le lait et le miel. D'un seul coup, on rêve, on pense, on fait des cauchemars de ces géants, et on oublie, mais non, Dieu a parlé, et je pense que c'est valable. Là, on parle de Canaan, mais aujourd'hui, on va pas forcément dans un Canaan géographique.
Mm-hmm.
Et c'est valable pour toutes les promesses que Dieu nous a faites dans notre vie. Est-ce que je vais croire ce que Dieu m'a dit, ou est-ce que je vais croire ce que 10 personnes dans mon entourage me disent avec leurs pronostics extrêmement pessimistes?
En toute honnêteté, si mon pessimisme avait affecté tout le monde, la chaîne de télévision EMCI TV n'existerait pas. Le centre EMCI ne serait pas en construction actuellement. Non, mais c'est pour dire à quel point, parce que moi, voilà, la sagesse à l'extrême peut devenir effectivement du pessimisme. Il ne faut pas mélanger les deux, c'est bien ce que tu dis. Parce que parfois, on va dire, non, mais il faut être sage.
On va dire, il faut être réaliste.
Oui, voilà.
Ouais. Et le réalisme est souvent le masque derrière lequel se cache le pessimisme.
C'est vrai.
Qui va dire «
moi, je suis pessimiste ». J'ai une révélation, là, David, j'ai une révélation.
Non, mais
fait tomber le masque.
Qui va dire ça? Qui va dire « moi, je suis pessimiste »?
Non.
Personne va dire ça. Personne ne se croit pessimiste. Mais en fait, souvent, on l'est.
Mm-hmm. C'est vrai.
Alors, c'est attention au réalisme. Et la tendance de la majorité d'entre nous, c'est que plus on vieillit, plus on tend vers le pessimisme.
Mm-hmm.
Il faut vraiment faire attention à ça. Les enfants sont optimistes.
C'est vrai.
Les enfants sont très optimistes. Et à part ceux qui se sont fait voler leur enfance par quelqu'un, là, ils ont un optimisme extraordinaire.
Mm-hmm.
Mais plus on vieillit, on commence à devenir un peu plus réaliste, un peu plus... Dans la quarantaine, parfois, on peut devenir pessimiste. Et si on ne fait pas attention, dans les cinquantaines et plus, il y a beaucoup de gens qui deviennent cyniques.
C'est vrai.
Qui est le pessimisme sur stéroïdes, là.
C'est tellement joliment dit.
Oui.
Mais c'est vrai. C'est très, très vrai. Et c'est vrai que les enfants devraient plus souvent nous inspirer parce qu'eux, ils ont les yeux qui pétillent très facilement.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a besoin de garder, en fait, cette part enfantine qui s'appelle la foi chez l'adulte, hein, tout simplement. C'est d'avoir encore les yeux qui pétillent quand Dieu nous confie quelque chose, ou quand on nous partage une vision, un projet, d'avoir encore ses yeux qui pétillent et de se dire, Ouais, c'est vrai que ça a l'air fou, mais moi, je crois que Dieu est dans le coup. Et je vais vous partager tout de suite notre verset du jour, puisqu'on est là-dedans, parce que Paul nous en donne une bonne leçon dans Philippiens 1, 20. Il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Paul sait que malgré toutes les tempêtes qu'il a pu vivre dans sa vie, et je pense qu'il en a connu des grosses tempêtes, mais malgré tout, il a cet optimisme, on pourrait dire. Il croit que ça va tourner à son salut, que ça va tourner à son avantage, parce qu'en fait aussi, il a les yeux fixés sur le ciel, sur l'objectif final. Et je crois vraiment le pessimisme vient souvent quand on a les yeux trop fixés sur ce monde, sur la terre, sur ce qui s'y passe, parce que franchement, c'est pas toujours encourageant, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on entend dans les médias et tout. Et tout ça nous influence, tout ça vient nous rendre de plus en plus négatifs dans notre manière de voir le monde, de voir les choses. Mais quand on a les yeux fixés sur le ciel, c'est beaucoup plus facile de pouvoir être optimiste, être quelqu'un de motivé. Tu souris, est-ce que je viens de te prendre un de tes punchs?
Non, pas du tout.
Okay.
Pas du tout.
J'ai eu peur.
Moi, je suis content qu'on parle de ce sujet-là parce que il y a, chez beaucoup de chrétiens, une fausse croyance, à mon avis, que l'optimisme, c'est juste un truc séculier ou c'est un truc de psychologie. Et qu'il y a une opposition entre l'optimisme et la foi, que c'est deux choses qui sont en opposition. Mmh. Et moi, je les vois pas en opposition du tout. Mmh. En fait, moi, je crois que c'est la foi qui donne du sens à l'optimisme. Je crois que l'optimisme sans la foi, c'est très personnel, mais pour moi, là, l'optimisme sans la foi, c'est absurde.
Ah ben oui, c'est sûr.
C'est absurde. On a traversé la pandémie, c'était quoi notre slogan au Québec? C'était « ça va bien aller ».
Oui.
OK,
ça va
je veux
pas bien.
Non, ça va. Tout le monde...
Tu es pessimiste!
Non, mais... OK.
J'ai jamais cru, moi, donc ça va bien aller.
moi, j'ai répondu « je veux bien ». Mais au nom de quoi?
Voilà, c'est ça.
Au nom de quoi? Au nom de qui? Moi, en tant que croyant, quand ils ont sorti ce slogan « ça va bien aller », je dis « absolument ». Bien sûr. Pourquoi je dis « ça va bien aller »? Parce que j'ai la foi en Dieu. Mm-hmm. Donc, mon optimisme repose sur ma foi. Donc, ma foi donne du sens à l'optimisme et non le contraire. Alors, c'est important pour les chrétiens de ne pas dire l'optimisme. Non, accueillez-le, justement. Vous avez la foi, votre optimisme a bien plus de sens que quelqu'un qui fait juste croire dans l'optimisme.
Ah, c'est tellement vrai.
Bah, c'est sûr, l'optimisme, ça va être la manifestation de notre foi et avec un sourire, en fait, et ça va nous rendre juste plus agréables et les gens vont aimer aussi être à notre contact. Parce que c'est fatigant, c'est drainant, les gens qui voient le pire partout. Je parle pas de toi, Evelyne, parce que t'es pas si pessimiste que ça.
Juste parfois. Juste quand tu es.
Et comme c'est fatigant d'être au contact de ces gens-là. Et en tant que croyant, on devrait être connu pour notre manifestation d'optimisme. Oui. De dire, ça, c'est des gens optimistes. Peut-être qu'ils ont pas compris qu'on était chrétiens, en quoi notre foi était fondée, mais de se dire ça devrait être visible de tous en fait, n'importe qui devrait pouvoir le dire au supermarché, à l'école, dans la rue. Ah, ça c'est un optimiste.
Oui.
Ah, lui, à chaque fois que je lui parle, il a tout le temps tout le temps il voit le bon côté des choses.
Oui.
C'est hyper encourageant. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop empiété sur ton conseil du coach, mais je suis sûre que tu as encore plein de pépites à donner. On va s'arrêter là pour la discussion et on va enchaîner donc avec la rubrique conseil du coach.
Aujourd'hui, nous allons parler du triomphe des optimistes. L'optimisme est hyper important dans toutes les sphères de nos vies, que ce soit la famille, le mariage, le travail, l'Église. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites dans les dernières années sur l'optimisme. Et les études ont démontré que les gens optimistes ont des meilleures relations interpersonnelles, une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Et tenez-vous bien, les optimistes vivent 35% plus longtemps que les pessimistes. Alors, arrête de fumer, sois optimiste et tu viens de gagner 25 ans. C'est extraordinaire. Mais c'est fou comment l'optimisme a des impacts sur nos vies. Et je veux regarder avec vous aujourd'hui, on va regarder un peu à l'histoire de Josué et Caleb, qui étaient deux optimistes dans des millions de personnes pessimistes. On va regarder un peu ensemble aux clés qu'ils ont appliquées. Il y aurait tellement de choses à dire, mais quelques clés. Comment ils ont pu demeurer optimistes dans une nation pessimiste? Et alors que ces deux hommes-là, en fait, étaient, selon les standards de l'époque, des vieillards. Et lorsqu'on avance en âge, on n'a pas tendance à être plus optimiste. Mais pour Josué et Caleb, c'était le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette relation avec le Seigneur. Il y avait cette relation avec Dieu qui les gardait optimistes et qui les faisait avancer dans l'optimisme. Ce passage de Nombre 13 où Moïse envoie les espions explorer le pays et Josué et Caleb reviennent avec le rapport optimiste et les 10 autres avec le rapport pessimiste, j'aimerais vous proposer que Josué et Caleb ne voyaient pas seulement les obstacles, ils voyaient les opportunités. On dit en anglais « look for the gift » of adversity. Dans ce que vous traversez en ce moment, dans les situations difficiles du moment, il y a un don. Il y a une grâce. Il y a quelque chose de beau que Dieu veut faire avec ça. Ce n'est pas seulement une épreuve. Non, non, c'est une épreuve qui va donner lieu à quelque chose de beau. Les optimistes ne s'arrêtent pas seulement à l'obstacle, seulement au problème. Les optimistes disent que de cela, ça, la situation présente va être du matériel à partir duquel Dieu va créer un futur meilleur. Israël est devant l'opportunité d'une vie. Entrer dans ce pays, cette terre de lait et de miel. Et pourtant, ils ont simplement vu les obstacles. Ils n'ont pas vu les bonnes choses. J'aimerais vous dire, des obstacles que vous traversez présentement, Dieu peut faire du bon avec. Dieu peut faire du beau avec. Une de mes figures que j'aime beaucoup, c'est le missionnaire William Carey, qui était un des pionniers de l'évangélisation en Inde. Et dans sa biographie, ça parle qu'à un moment donné, eux faisaient la traduction de la Bible dans plusieurs langues qui étaient en Inde, en hindi et autres. Puis leurs installations avaient passé au feu, leurs installations avaient flambé, ils avaient tout perdu, un an de travail. Et ce qui est fascinant, c'est que Carey et ses collaborateurs ont dit « Non, non, Dieu va prendre cette situation-là pour faire quelque chose de bon avec. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose. » Et ce qui est arrivé, c'est qu'en moins d'une année, cette tragédie-là a fait tellement parler que les gens partout en Europe se sont mobilisés pour donner à leur ministère. Et ils ont pu non seulement rattraper le retard qu'ils avaient pris dans la traduction, mais terminer plus vite que des cendres. Dieu avait fait naître quelque chose de beau. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mes amis, mais les vieux prédicateurs racontaient cette histoire d'un fermier qui avait une mule. Vous savez c'est quoi une mule? C'est un croisement entre un cheval et un âne. Et la mule du fermier était tombée dans un puits et le fermier n'était pas capable de sortir sa mule. Alors, il a décidé de l'enterrer vivant. Il est allé chercher une pelle et il a commencé à enterrer sa mule. Mais alors qu'il le faisait, il s'est passé quelque chose qui ne s'attendait pas du tout. Alors qu'une pelletée de terre tombait sur l'animal, l'animal se secouait et la terre tombait à côté de l'animal et l'animal commençait à piétiner la terre. Et au fur et à mesure que le fermier enterrait l'animal, l'animal utilisait la terre pour s'élever au niveau du sol. Vous allez dire, est-ce que c'est vrai cette histoire-là? J'en ai aucune idée. Mais il y a une leçon spirituelle extraordinaire là-dedans. Que ce que l'ennemi a pris pour essayer de t'enterrer, par la foi, en faisant confiance à Dieu, on peut prendre ce matériel-là pour s'élever au niveau du sol. Ce que l'ennemi a voulu prendre pour m'étouffer, je peux le prendre pour m'élever par la grâce de Dieu. Les optimistes ne voient pas seulement des obstacles, les optimistes voient des opportunités. Mais deuxième clé, il y en aurait tellement à dire, mais deuxième, les optimistes parlent le langage de la foi. Lorsqu'on lit le texte Nombre 13 et 14, on voit ce contraste entre le langage des pessimistes et le langage des optimistes. Les pessimistes ont dit « Oui, c'est un pays de lait et de miel, mais attention à notre utilisation du « mais ». Parce que parfois, lorsqu'on utilise le « mais », c'est une négation de ce qu'on a dit avant. Si je dis à ma femme « Chérie, t'es vraiment belle, mais, voyez-vous, tout ce que j'ai dit avant tient plus ». Parce que « mais » c'est la négation de ce qu'il y a avant. Et les 10 espions avaient ce langage pessimiste. Ils utilisent le « mais », ils font des généralisations à outrance. Ils disent « tous les hommes que nous avons vus étaient de haute taille. Non, non, non. Seulement les fils d'Anak l'étaient. Mais eux, ils généralisent à outrance. Ils exagèrent. Ils disent, on était à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. OK. Les fils d'Anak étaient des géants. C'est les ancêtres du géant Goliath. C'est des géants de 3 mètres. Je comprends que c'est haut 3 mètres. Mais est-ce que c'était comme des sauterelles? Non, on n'est pas à leurs yeux comme des sauterelles. C'était une exagération. Ils parlaient le langage du pessimisme, mais Josué et Caleb parlent le langage de la foi. Au Nombre 14:8, le discours de Josué, Josué va dire « Si l'Éternel nous est favorable ». Et j'aime que Josué commence avec un « si ». Vous savez pourquoi? Parce que moi, là, ma foi n'est pas toujours forte. J'ai pas toujours une confiance en Dieu inébranlable. Parfois, je suis comme « Oui, si Dieu intervient ». Si Dieu est avec nous, j'aime le fait que Josué commence avec un « si ». Si l'Éternel nous est favorable. Ça, c'est au verset 8. Mais au verset 9 de Nombre 14, il va dire ceci. « Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. » Voyez-vous, Josué parle le langage de la foi. Et en parlant le langage de la foi, il fortifie sa foi. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, mes amis. C'est une excellente nouvelle pour nous que même si tu ne te considères pas comme quelqu'un qui a une grande foi et comme quelqu'un qui est un homme de Dieu extraordinaire, une femme de Dieu, non, non, commence à parler le langage de la foi. Et si tu ne te sens pas capable de faire des grandes déclarations, mets un « si ». Commence par mettre un « si ». Si l'Éternel est avec moi. Si l'Éternel est... Et là, mais tu peux mettre après. Si tu mets un « si », là, tu vas avoir confiance pour mettre n'importe quoi. Si l'Éternel est avec nous, nous serons vainqueurs. Mais alors que je commence avec le « si », je viens fortifier ma foi en parlant le langage de la foi. Et tout à coup, je ne serai plus dans le « si ». Je vais prendre le « si », je vais le mettre de côté, puis je vais dire « ils nous serviront de pâture. Montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. » Dans notre église, on a ce qu'on appelle des énoncés de culture. C'est comme 12 énoncés par lesquels on se donne des garde-fous pour s'empêcher d'errer et d'aller dans des directions qui ne sont pas ce qu'on veut être. Et l'un des énoncés, c'est « impossible n'est pas » dans notre vocabulaire. On se challenge les uns les autres. Lorsque quelqu'un donne une idée et que tout de suite la nature humaine vient détruire l'idée, on dit « ça ne marchera pas, c'est impossible, on se corrige entre nous ». Non, non, attention, impossible n'est pas dans notre vocabulaire. Des gens de mon staff me le disent. Parfois, on partage une idée, puis je dis « mais non, ça ne marchera pas ». Dave, impossible n'est pas dans notre vocabulaire. Et là, je dis « ah oui, excusez-moi, allez-y, partagez-nous l'idée ». Et j'ai tellement, je crois tellement là-dedans que j'ai littéralement, mes amis, j'ai enlevé le mot « impossible » de mon dictionnaire. Si tu viens chez moi à la maison, tu prends mon dictionnaire Robert, j'ai pris un couteau, OK, et bien propre, j'ai découpé le mot « impossible ». Il n'est plus dans mon dictionnaire. Et savez-vous quoi? Je ne m'attendais pas à ça, je m'en suis aperçu par après. Mais au dos de la page où il y avait le mot « impossible », quand j'ai enlevé le mot « impossible », en même temps, j'ai enlevé le mot « impôt du dictionnaire », c'est-tu formidable, ça? Gloire à Dieu, je pense que Dieu m'a parlé. Non, c'est pas vrai. Payez toujours vos impôts, OK? C'est une blague. Mais c'est vrai, j'ai enlevé le mot « impôt ». Je savais pas, je me dis « Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler? » Le Seigneur dit « Non, je suis pas en train de te parler. Je te parlais sur « impossible », je paye tes impôts. » « Impossible » n'est pas dans notre vocabulaire. Il y a des gens, tu es devenu pessimiste. T'as progressé, t'as dégénéré dans le pessimisme. Et tu dis, mais est-ce que c'est possible pour moi? J'aimerais te dire qu'avec Dieu, c'est vraiment possible de devenir optimiste. Commence à parler comme Josué, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec moi. Et Dieu va agir, et Dieu va te changer. Moi, honnêtement, on démarre tous en quelque part. On a une génétique et on est avec cette génétique. Et moi, je ne suis pas né... je ne suis pas très, très optimiste de naissance. Rapidement, dans ma vie, je suis devenu pessimiste. Et je dirais peut-être un 2 sur 10. Mais par la grâce de Dieu, dans mes jeunes années, j'ai pris une décision. Je dis, Seigneur, tu vas m'aider. Seigneur, tu vas me changer. Et ça a été un parcours, et c'est encore un parcours vraiment de montagne russe, je vous le dis. Mais honnêtement, je peux dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis un 7, 8 sur 10. J'étais quelqu'un de très, très négatif. Et je me souviens, au début de notre mariage, j'avais pris une résolution d'être optimiste, de faire confiance à Dieu. Et j'avais dit à ma femme, « Chérie, un jour, je vais écrire un livre. Ça va s'intituler « L'homme le plus heureux sur la terre, mémoire d'un ancien cynique ». Et ma femme m'a dit, « T'as beaucoup de travail à faire avant d'écrire ce livre-là ». Mais honnêtement, par la grâce de Dieu, j'ai pris le taureau par les cornes. Et je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, je ne me reconnais pas moi-même. Est-ce que je suis satisfait d'où je suis? Vraiment pas. Vraiment pas. Mais j'ai appris à pas seulement regarder aux obstacles. J'ai appris que dans chaque obstacle, il y a une opportunité. Et j'ai appris à parler le langage de la foi. J'ai appris que non seulement quand je parle le langage du pessimisme, ça contamine les autres autour de moi, mais ce que j'ai appris, c'est que quand je parle moi-même le langage du pessimisme, ce qui sort de mon cœur rentre dans mon cœur. Et ça me rend encore plus pessimiste. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est possible de devenir quelqu'un de foi, un homme de foi, une femme de foi. Il y en a, vous êtes tellement pessimiste que vos relations interpersonnelles en souffrent. Et vous vous sentez peut-être un peu une victime. Il y a des gens qui s'éloignent de vous. Et lorsqu'on a cette réalisation-là, au début, on est dans le déni, puis lorsqu'on le réalise, c'est dur, ça fait mal. J'aimerais vous dire, vous pouvez changer par la grâce de Dieu. Vous pouvez changer. Mais commencez à parler d'une façon. Être optimiste, c'est une façon de penser. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais c'est beaucoup une façon de parler. Déclarer la vie. Déclarer la victoire. Il y a quelqu'un qui est venu me voir récemment puis qui m'a dit « Est-ce que ça va, David? » Je dis « C'est tough. Je vis une saison difficile. » Et j'allais dire à la personne « On est dans un moment où on a gagné une bataille, mais la guerre n'est pas remportée. » J'allais lui dire ça. Et au moment que j'allais lui dire ça, je me suis senti repris par le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a encore des batailles à livrer. Mais la guerre est déjà remportée. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Alors, c'est pas que vous avez quelques batailles à livrer puis qu'il y a encore une guerre à gagner. Non, non, non. C'est qu'il y a des batailles à livrer, mais la guerre est remportée. Et la bataille contre le pessimisme, vous pouvez la gagner dans le nom de Jésus.
Amen! Excellent! Bien de nous retrouver, David. C'était formidable. J'ai reçu. C'était excellent. Merci beaucoup, vraiment, à la maison. J'espère que vous avez vraiment pris le temps d'être à l'écoute aussi de ce que le Saint-Esprit pouvait vous dire. Est-ce que votre conscience vous a repris sur certaines choses? Et si vous voyez que, bah, peut-être comme David, vous étiez à 2 sur 10 aujourd'hui, bah, vous voyez, c'est possible si David a pu évoluer. C'est possible. Vous pouvez aussi évoluer et puis décider de devenir, à partir d'aujourd'hui, une personne optimiste. Vous allez voir le verre à moitié plein et vous allez supprimer, en tout cas, diminuer considérablement les « mais » de votre langage et ajouter « oui, si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits ». Merci David, c'était formidable. Merci. On se retrouve demain, on ne se sépare pas de toi tout de suite. Demain, notre thème sera « Que faire pour accomplir une grande vision ?» Tu vas faire la pensée du jour, une rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci. Et nous, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Je me souviens qu'en 2007, j'avais l'habitude le soir de sortir pour prier en région parisienne, dans cette petite ville de Noisy-le-Grand. Et un soir, je levais les yeux au ciel et je priais, je disais « Père, je ne te demande pas des maisons, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas des voitures, mais je te demande une chose. Sers-toi de moi, s'il te plaît, pour amener des millions d'âmes à Christ par le biais des médias. » Et quelques années plus tard, EMCI TV est sorti. Et aujourd'hui, ma joie est grande, frères et sœurs, de me tenir ici devant vous, devant la construction du centre EMCI, parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses à travers les programmes de télévision qui vont être produits ici et les conférences qu'on va médiatiser. Et je crois qu'un maximum d'âmes partout dans la francophonie seront sauvées. Alors merci aux 3500 héros qui vont se lever. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez un cœur pour le salut des âmes et qui se met dans cette œuvre. Et souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu vous bénisse.
Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.